Augustin Landier, que j'ai invité aujourd'hui pour compléter ce que je vous ai raconté sur la théorie de l'évaluation des actifs financiers. Donc, Augustin Landier était professeur à HEC Paris. Il a déjà une longue carrière. Il a fait sa thèse au MIT. Il a été mon collègue à TSF pendant un certain nombre d'années, mais les sirènes parisiennes ont finalement fini par l'emporter. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc, Augustin est un spécialiste de finance. Finance d'entreprise, donc il a pas mal regardé les problématiques de coût du capital des entreprises et de l'impact du coût du capital sur les investissements de ces entreprises. Il a eu aussi une action assez forte sur les problématiques de rémunération des dirigeants d'entreprises dans un papier qui est resté célèbre et qui est extrêmement souvent cité. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pense qu'il n'en parlera pas aujourd'hui. Et puis par ailleurs, Augustin est une personne engagée dans la société. D'abord, il a une action dans l'investissement socialement responsable. Donc, il a beaucoup d'activités là-bas, pas seulement académiques. Et puis, par ailleurs, il est aussi un contributeur mensuel au journal Les Échos. Donc, il a des tribunes mensuelles avec David Tesmar, son collègue du MIT. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup de plaisir à introduire Augustin. Et d'ailleurs, voilà, il fait partie des rares spécialistes de finance qui prennent au sérieux les problématiques de changement climatique, de responsabilité sociale des entreprises. Hein, dans ce monde de la finance, on regarde encore, je crois, avec beaucoup de, peut-être de curiosité, mais aussi de scepticisme, la montée en puissance de cette demande sociale pour des marchés financiers plus responsables. Voilà, Augustin, c'est à toi.
Merci. Merci Christian. Alors je vous ai préparé une présentation qui essaye de faire un peu de manière honnête un peu le point sur la manière dont je perçois un peu l'état de ces questions de finances durables, en particulier ayant trait au climat. Plus généralement, bon, on met souvent dans le même sac la finance dite ESG qui s'intéresse aux problèmes environnementaux, aux problèmes sociaux, aux problèmes de gouvernance. Et donc beaucoup des choses que je vais dire s'appliquent à un cadre plus général que les questions climatiques, mais je vais quand même focusser sur le climat bien sûr. Et au fond, une manière de présenter les choses, c'est souvent le cas en économie, parce qu'on perd la trace de l'histoire des concepts, c'est un petit peu de suivre l'histoire des idées. Donc je vais partir un peu de ce qu'on enseignait en finance il y a 20 ans dans les écoles de commerce, et ce qui était le paradigme ambiant dominant, celui de la maximisation de la valeur actionnariale. Pas pour simplement pouvoir taper dessus après, mais pour bien comprendre d'où il vient, pourquoi il s'était imposé, et ensuite qu'est-ce qui fait que de plus en plus on a introduit en finance, donc aussi bien du côté des investisseurs, des praticiens, que de ce qui est enseigné maintenant, de l'enseignement qui est délivré, des considérations qui ont trait à introduire d'autres dimensions que simplement la maximisation de la valeur actionnariale dans l'objectif du dirigeant ou des gestionnaires de fonds. Et j'ai aussi conçu la présentation pour aider un peu à séparer les problèmes, et comme ça, vous pouvez, quand vous êtes dans une conversation sur un sujet, essayer de catégoriser un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a une vision opportuniste de la durabilité, qui est défendable, mais qui a ses limites, qui en un sens est le cas le plus simple, qui est le cas où faire des efforts pour polluer moins, c'est à la fois profitable parce que ça va améliorer les profits de long terme de l'entreprise, étant donné qu'on peut anticiper que le prix du carbone et que les contraintes réglementaires vont augmenter, et c'est aussi bon pour la planète. Ce cas-là, il n'est pas très intéressant, c'est un cas où il n'y a pas vraiment d'arbitrage à faire. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire des efforts si c'est à la fois quelque chose qui augmente la valeur des entreprises et qui en plus est bon socialement et moralement défendable. Mais en même temps, c'est important de passer un chouïa de temps sur ce cas-là pour deux raisons. D'abord parce qu'il est omniprésent dans le discours marketing de la finance responsable qui consiste à dire « soyez un peu intelligent, anticipez que... on voit bien que les réglementations se mettent en ordre de marche et vont devenir plus contraignantes et donc c'est intelligent de purger vos portefeuilles des entreprises qui ne développent pas du tout de compétences sur ces sujets. Donc ça, en un sens, pourquoi pas, c'est défendable, mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est encore dans une situation où les grandes entreprises ignorent ces sujets ? Personnellement, je ne pense pas, mais j'introduirai le débat de manière vraiment objective. Alors ensuite, il y a le cas qui, à mon avis, est le plus intéressant conceptuellement, qui est le cas où on peut s'interroger en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, sur la possibilité de concéder, de renoncer à une partie de notre performance purement financière pour exprimer des valeurs morales et pour dire, moi, ça m'intéresse que mon épargne, bah, tant pis si elle rapporte un peu moins, mais au moins elle contribue à des choses qui, de mon point de vue, sont en ligne avec mes valeurs. Et donc ça, c'est la question de l'investissement, de la dimension morale chez les investisseurs. Mais c'est important de séparer les deux cas. Il y a un cas purement opportuniste qui consiste à dire, il faut vraiment prendre ces questions de climat très au sérieux, les entreprises qui ne le font pas vont dévisser. Et donc là, effectivement, c'est intelligent comme investisseur de les forcer à développer leurs compétences sur ces sujets. Et c'est ce qu'en dans les écoles de commerce, on essaye de faire, de développer de nouveaux cours sur ces sujets qui sont nouveaux. Et puis ensuite, il y a un cas plus fort et plus intéressant, parce que vraiment nouveau, qui est de s'interroger sur est-ce qu'on est prêt à faire des concessions financières. Alors donc, l'introduction, je vous disais, ça va être de vous rappeler un petit peu le paradigme dont on vient, qui est celui de la maximisation de la valeur actionnariale. Et donc, je vais essayer de le présenter de manière impartiale, pas idéologique. Il y a toujours de l'idéologie un peu dans ces questions d'économie. Et donc, je vais essayer de vous montrer d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé finalement à un consensus qui était de dire que dans les écoles de commerce, on enseignait que la mission du dirigeant, c'était de maximiser la valeur actionnariale de l'entreprise. Donc d'abord, juste pour fixer un petit peu l'écosystème, la terminologie, on oppose souvent les parties prenantes et les actionnaires. En anglais, on dit les stakeholders et les shareholders. Et qu'est-ce que c'est que ces stakeholders, ces parties prenantes? C'est tous les gens qui sont directement affectés par les décisions de l'entreprise. Et donc ça incorpore évidemment les actionnaires et les créanciers, mais aussi les managers, les employés, et puis l'environnement, les communautés, la société de manière plus large, et également les clients et les fournisseurs de l'entreprise. Si un produit est défectueux ou si l'entreprise traite mal ses fournisseurs, ça a évidemment des conséquences sur leur bien-être. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont directement affectées par le comportement d'une entreprise. Alors, ce que j'appelle le paradigme de la valeur actionnariale, de la défense de la valeur pour l'actionnaire, c'est celui qui prévalait et qui vient des années 50-60. Milton Friedman est devenu un peu le symbole de ce paradigme. Et donc, lui disait, c'était un peu une doctrine de ce que doit faire un dirigeant d'entreprise. Il disait, un dirigeant d'entreprise a une responsabilité directe envers ses employeurs, qui sont les actionnaires. Cette responsabilité consiste à conduire l'entreprise conformément à leurs désirs, sa responsabilité première est envers eux. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il disait, il n'y a qu'une seule et unique responsabilité sociale des entreprises, utiliser leurs ressources et s'engager dans les activités destinées à augmenter leurs profits tant qu'elles restent dans les règles. Et donc le temps qu'elles restent dans les règles est évidemment très important. Donc aujourd'hui, ça fait un peu hurler, et Milton Friedman est devenu un peu le punching ball de la finance comme ça, responsable, contemporaine, mais en fait, il faut le lire plutôt comme une sorte de principe de séparation, de dire il faut répartir les rôles. Le dirigeant, lui, son métier, c'est de maximiser la valeur actionnariale et les règles, ce que sont les comportements admissibles, ça relève de la réglementation, de la loi. Et le paradigme sous-jacent qui reste dominant en économie, c'est qu'il y a des problèmes d'alignement d'objectifs entre les gens qui confient leur argent aux entreprises et ceux qui prennent les décisions concrètes sur quoi en faire. Donc c'est les modèles principaux agents, dont l'école d'économie de Toulouse d'ailleurs est probablement un des centres qui a développé à fond ce paradigme dans les années 80, 90, 2000. En particulier, ça s'applique très bien à la crise financière, à la compréhension de situations où la divergence des intérêts sociaux, de ce qui est bon pour le bien commun ou même pour les actionnaires, et puis de ce que les agents, les managers ont envie de faire, ces situations de divergence peuvent conduire à des catastrophes. Et donc, il faut les penser ex ante, il faut avoir des contrats, avoir des systèmes de surveillance qui évitent des situations où ces conflits d'intérêts, en quelque sorte, dégénèrent. Donc cette théorie de l'agence, elle est importante à garder en tête parce que c'est à l'aune quand même de ces problèmes, c'est en essayant d'éviter d'avoir une vision trop idéaliste de ce qu'on peut attendre des managers et des dirigeants qu'il faut juger la possibilité de, je ne sais pas, compter sur leur moralité, etc. Donc concrètement, les problèmes d'agence, évidemment qu'il y a des problèmes de fraude, de rémunération extrême, farfelue, de patrons qui s'achètent des jets privés, etc. Donc ça, c'est les cas un peu extrêmes, donc qui se gèrent simplement par la gouvernance, en ayant des systèmes de surveillance et de répartition des rôles décisionnaires. Il ne faut pas, évidemment, qu'un patron puisse choisir lui-même sa rémunération ou qu'il ait un conseil d'administration complètement inféodé à ses désirs privés. Mais les deux problèmes qui ont été identifiés dans la littérature, qui sont plus subtils, parce qu'ils sont moralement moins, moins horribles, c'est au fond une certaine aspiration à la vie tranquille, disons, dans les entreprises, c'est-à-dire l'idée de ne pas prendre de décisions qui mettent en jeu des confrontations, soit parce qu'il faut fermer des usines, c'est pénible, ou parce qu'il faut remettre en cause des standards technologiques sur lesquels on était bon, et du coup, ça va obliger de détruire les rentes de certains managers qui peuvent être des amis et qui vont se retrouver un peu dans une position plus difficile dans ce nouveau contexte, etc. Et puis l'autre, c'est l'hubris, c'est la tendance des dirigeants à penser qu'ils sont vraiment meilleurs que les autres et que donc c'est leur vocation de construire une sorte d'empire. Et donc voilà, des tas de cas peuvent vous venir en tête pendant la bulle Internet en particulier, d'entreprises qui ont été dirigées par des dirigeants souvent charismatiques, mais qui ont cru en fait que simplement le fait qu'un actif soit géré par eux allait créer de la valeur et qui du coup ont détruit la valeur de leurs actionnaires. Donc ça, voilà, je ne vais pas trop passer trop de temps là-dessus, mais c'est un petit peu ce paradigme frigmadien, gardons-le en tête, il vient en fait d'une sorte de principe de séparation des sphères qui vient des Lumières du 18e, c'est vraiment l'héritage d'Adam Smith, cette idée que bah, finalement, il y a le monde du business, les entrepreneurs maximisent leurs profits, il y a la fameuse phrase d'Adam Smith, vous savez, qui est « quand je vais chez le boucher, je ne compte pas sur sa commisération, sa pitié », pour me donner un bon morceau de viande, et réciproquement, il ne compte pas sur ma pitié à moi pour me vendre un morceau de viande, donc c'est un échange purement intéressé. Mais voilà, ce que Adam Smith a montré dans son ouvrage principal, c'est que finalement, ça fonctionne, cette sphère, parce que bah, c'est la charge de la preuve est que le boucher doit me convaincre que sa viande est bonne, moi, je dois le convaincre que j'ai de quoi le payer, et finalement, on coopère indirectement vers quelque chose qui, dans la sphère du business, peut être une forme de bien commun, à supposer qu'il n'y ait pas trop d'externalité. Donc c'est là que le cas de l'environnement est une déviation en fait, par rapport à ce monde-là. Et donc je revenais sur cette séparation des sphères. Adam Smith était tout à fait conscient qu'il y avait une autre sphère qui était la sphère morale intime de l'individu. Il avait écrit d'ailleurs un ouvrage de science morale sur les sentiments moraux, où il disait évidemment que c'est très important de réfléchir sur quels sont nos devoirs, nos responsabilités, en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'une communauté, en tant que citoyen. Et donc il y avait tout un apparatus sur réfléchir là-dessus, sur cette question de la philanthropie dans la sphère privée, qui n'est pas une question que la finance un peu carnassière de Friedman néglige. En fait, Friedman dit que c'est très important la philanthropie, mais c'est aux actionnaires de décider à qui ils veulent donner leur argent, parce que ce n'est pas l'argent du patron, c'est l'argent des actionnaires. Bon, et puis, il y a l'autre sphère, qui est la sphère du gouvernement, où on est censé délibérer, un petit peu comme Christian l'introduisait, sur quels sont les trade-offs, jusqu'où on est prêt à aller pour collectivement internaliser des externalités, prendre en charge le bien-être des générations futures. Et donc, voilà, il y avait cet idéal d'une séparation des sphères qui a le mérite d'une forme de pureté, c'est-à-dire que ça évite des situations de flou ou d'ambiguïté. Donc voilà d'où on vient, voilà ce qu'on enseignait, grosso modo, dans les business schools, je dirais, il y a 20 ans. C'était ça, le paradigme dominant. Alors, il a été très attaqué, ce paradigme, et je dirais, il y a quatre grandes préoccupations qui peuvent donner lieu à une remise en cause de ce paradigme. Donc la première, c'est des questions de prédation sur les parties prenantes. C'est l'idée que, bah, en disant au patron d'entreprise, votre objectif, c'est de maximiser la valeur actionnariale, au fond, ce qu'on leur dit, c'est si vous trouvez des petites entourloupes, des choses qui exproprient en quelque sorte les autres parties prenantes au bénéfice de l'actionnaire, faites-le, ça fait partie de votre mission. Donc ça, c'est des effets pervers qu'on peut essayer de contenir en ayant des systèmes de contrats qui évitent ces situations, mais il n'en reste pas moins que, voilà, c'est vrai que quand on ferme une usine, peut-être pour rendre l'entreprise plus propre, par exemple, bah, ça peut induire des pertes des valeurs immobilières, le fait que les gens, évidemment, perdent leur emploi, etc. Donc il y a bien ces externalités. Ou bien mettre la pression sur les fournisseurs, si vous êtes une entreprise un peu en situation de monopole qui cherche à squeezer, comme on dit, ses fournisseurs, là aussi, ça peut être prédateur. Bon, donc ça, c'est des considérations plutôt de redistribution, parce que c'est l'idée que si on pense le gâteau comme étant un gâteau fixé, le gâteau de la valeur économique créée, si je dis aux dirigeants, ton objectif, c'est de faire que la part de l'actionnaire soit la plus grosse possible, bah, ça risque de se faire au détriment des autres parties prenantes, et donc il y a des considérations un peu sur le risque que ça conduise à une forme de capitalisme prédateur. Bon, ça c'est le premier sujet. L'autre, c'est au fond celui qui est le plus important pour les questions climatiques, c'est la question des externalités, c'est le fait que quand je pollue aujourd'hui, j'ai un effet qui est un effet qui porte sur les autres et qui n'est pas médié par un prix, donc il le sera peut-être complètement un jour, il l'est déjà un peu avec le prix du carbone sur certaines activités, mais voilà, toutes les activités ne sont pas soumises à un prix du carbone, à une taxe carbone, et puis par ailleurs, le prix du carbone ou les taxes éventuelles qui s'appliquent sont à des niveaux qui ne reflètent pas probablement l'intégralité de l'externalité. Donc ça, c'est l'idée que maximiser la valeur de l'entreprise, si ça se fait en exerçant des externalités négatives sur les autres, c'est pas efficace. Ensuite, il y a une autre préoccupation qui concerne le court-termisme et qui consiste à dire deux choses au fond. La première, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au marché pour prédire la valeur fondamentale ? Donc si les marchés eux-mêmes ont du mal à prendre en compte la valeur de long terme des actions qu'on prend aujourd'hui, ou si c'est facile de cacher les problèmes futurs de l'entreprise, parce que par exemple, elle n'est pas aux normes futures, elle n'est pas adaptée à un monde où il faut polluer moins, dans ce cas-là, le dirigeant n'a pas forcément les bonnes incitations. Ça se résout quand même assez facilement, et donc je vous dirais, je ne pense pas que ça soit le problème majeur, au sens où on peut donner aux dirigeants des incitations de long terme, leur dire que bon, au bout du compte, ils seront payés un peu en proportion de ce qu'ils de la valeur de long terme qu'ils auront générée ou qu'ils auront contribué à générer. Et puis par ailleurs, et Christian l'a déjà dit, mais de manière générale, les marchés sont pas particulièrement court-termistes. C'est pas vraiment ça qui saute aux yeux quand on regarde un peu de près l'histoire des prix. Au contraire, disons, s'il y a des anomalies dans les marchés, c'est souvent une tendance à s'emballer un peu trop et à faire des bulles, à valoriser très haut des entreprises qui promettent de faire des profits dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, on a connu toutes ces révolutions technologiques, la bulle Internet et puis celles qui ont suivi, où le marché s'enthousiasmait. Et finalement, peut-être que socialement, c'était optimal parce que ça a créé un enthousiasme très fort pour les technologies, mais ça a quand même conduit à de la destruction de valeur actionnariale. Certains épargnants ont perdu de l'argent. Bon, et puis, alors, le dernier point, la dernière remise en cause de la maximisation de la valeur actionnariale, c'est des questions morales. C'est de dire, l'actionnaire doit, il a le droit en tout cas d'intégrer des considérations morales et de dire aux dirigeants, non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de maximiser la valeur de l'entreprise dans toutes les situations. Je veux que ça soit fait pas seulement en respectant les règles qu'impose le gouvernement, mais également en respectant des règles morales qu'on va s'imposer si vous voulez recevoir notre argent. Et donc il peut y avoir une sorte de pacte entre l'investisseur et l'entreprise pour finalement pousser plus loin le type de règles auxquelles l'entreprise va s'astreindre. Alors, bon, est-ce que finalement on est dans une période où il faut simplement renoncer à la maximisation de la valeur actionnariale pour dire il faut que les dirigeants d'entreprise maximisent quelque chose de plus global qui serait la stakeholder value, quelque chose qui prenne en compte les parties prenantes? C'est quand même pas facile en fait, et pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est sans doute assez malsain de demander au PDG d'être philanthrope avec l'argent des actionnaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même créer tout un système de surveillance et de règles sur ce qu'ils ont le droit de faire, parce que chacun peut avoir ses causes. On peut être passionné par la défense de, je sais pas, tel ou tel écosystème. Il faut vraiment réfléchir sur la légitimité des actions philanthropiques. Bon, mais ça peut se faire, on peut contractualiser ces questions. Mais surtout, la valeur pour les parties prenantes des décisions, enfin l'impact pour les parties prenantes des décisions d'une entreprise est très difficile à mesurer. En fait, ce qui faisait la force de la maximisation de la valeur actionnariale, c'est qu'on a quelque chose de mesurable qui est la valeur boursière d'une entreprise. Elle vaut ce qu'elle veut, elle est bruitée, c'est un peu volatile. Les marchés ne sont pas omniscients, évidemment, mais malgré tout, ça donne une jauge qui a le mérite d'être beaucoup moins floue qu'un objectif un peu flou. Et donc, voilà, il faut quand même toujours garder en tête l'idée que quand on entend des interviews de dirigeants d'entreprise, souvent, c'est plutôt ceux qui sont en difficulté sur la question de la gestion, disons, de leur entreprise et des profits, qui mettent en avant le fait que, oui, effectivement, ils perdent de l'argent, mais d'un autre côté, ils ont fait beaucoup d'efforts sur les questions environnementales, les questions des externalités. Donc, il faut avoir en tête que le problème d'agence, il ne disparaît pas juste parce qu'on parle de questions morales et de capitalisme vert. Il reste, il ne faut pas être naïf, il y a un risque que les dirigeants d'entreprise instrumentalisent le sujet pour cacher, au fond, des fautes de gestion ou des manques, disons, d'ambition derrière le paravent, disons, d'être plus responsable que les autres. Donc ça, il ne faut pas se dire que l'aléa moral a disparu. Donc ça, c'est ce dont on vient. Ce n'est pas si facile que ça de quitter le monde de la maximisation de la valeur actionnariale. On peut essayer, mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire la question de l'intégration des questions morales dans le pacte, en un sens, entre l'actionnaire et l'entreprise, je vais parler de la vision gagnant-gagnant de la durabilité. Pas pour dire que ça n'existe pas, en fait, mais pour dire que c'est le cas facile, c'est le cas où ça va un peu de soi, mais effectivement, ça fait partie du métier du gestionnaire d'actifs, de vérifier que le dirigeant ne fait pas n'importe quoi sur les sujets environnementaux. Mais je voudrais tout de même vous appeler aussi à être un peu méfiant des discours de l'industrie de la gestion d'actifs verte qui dit que c'est systématiquement gagnant-gagnant. Non, c'est pas systématiquement gagnant-gagnant, en fait, qu'investir dans les entreprises plus vertes va rapporter plus d'argent. Ça le serait si le marché était complètement idiot et inconscient sur ces sujets, mais c'était peut-être le cas il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc la vision opportuniste sur la durabilité, elle consiste à dire... chercher à développer des technologies qui nous permettent de produire de manière plus verte, ça va créer de la valeur à long terme parce qu'on sera compatible avec des réglementations plus strictes sur l'environnement. Et donc c'est à la fois profitable pour l'entreprise et bon pour la planète. Et ça, je pense que c'est tout à fait défendable comme idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très important que les jeunes qui sont dans les écoles de commerce ou les écoles d'économie intègrent l'idée qu'effectivement, quand on prend une décision qui, par exemple, un choix technologique qui va lier un peu les mains de l'entreprise pour 15 ans, il ne faut pas simplement s'interroger sur la compatibilité avec les réglementations d'aujourd'hui, il faut s'interroger sur les réglementations futures ou le prix du carbone futur. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie de la compétence du dirigeant, au même titre que, je ne sais pas quoi, il ne faut pas maltraiter ses employés, sinon ils partent. Enfin, c'est un peu du même ordre, au fond, de dire que pour maximiser la valeur d'une entreprise, il faut avoir de la jugeote et intégrer ce que seront les contraintes de long terme. Donc si on traite mal les gens aujourd'hui, peut-être qu'on peut augmenter les profits pour un trimestre, mais très vite, ça va se payer, c'est pas viable. Donc ça, voilà, ça fait partie de ce qu'il faut enseigner. Il faut créer aussi le système de monitoring, de surveillance qui permet aux actionnaires de s'assurer que les entreprises développent les compétences, que les conseils d'administration développent les compétences pour parler de ces sujets et pour être capable de les regarder. Et juste pour connecter à ce que Christian vient de faire, je vais vous montrer que c'est justement le type de calcul que Christian introduisait est nécessaire, en fait, un peu incontournable, parce que ça vous conduit à vous poser la question du taux d'actualisation de projets spécifiques. Donc prenons l'exemple d'une entreprise qui cherche à décider si elle veut faire des projets ou pas. Donc comme Christian disait, et ça on le fait en école de commerce, on fait ça concrètement, on calcule des valeurs actualisées nettes, ou on s'interroge sur les profits ou les dividendes futurs que ça va rapporter. Et donc, il y a des dividendes de court terme, des dividendes de long terme. Donc, ça, c'est la logique de l'actualisation qui est utilisée en pratique par les praticiens. Donc maintenant, imaginons une entreprise qui se demande si elle veut rester très polluante. Et donc là, elle sait ce que vont être ses dividendes futurs, ses dividendes de long terme. Ou bien est-ce qu'elle veut devenir plus propre, mais dans ce cas-là, elle va devoir payer un coût C aujourd'hui. Et puis, cela va générer des profits additionnels à long terme qui seront dus au fait qu'elle n'aura pas à s'adapter dans l'urgence à des règles plus strictes. Donc là, dans le calcul de cette valeur actualisée nette, va se poser la question de comment on actualise ces profits futurs. C'est assez complexe, en fait. Il faut à la fois s'interroger sur quelles sont les anticipations raisonnables sur les gains additionnels que ça va représenter. Donc pour ça, il faut avoir les idées claires sur ce que sera la trajectoire carbone, les réglementations, voire même les normes sociales en un sens, c'est-à-dire est-ce que les clients, est-ce que les consommateurs seront extrêmement précautionneux sur ne pas acheter trop de biens d'entreprises polluantes ou pas. Donc ça, c'est un peu un pari sur le futur, enfin, il faut y réfléchir, c'est pas évident ce que sont les anticipations rationnelles là-dessus. Mais surtout, quand on calcule cette valeur actualisée nette, le taux d'actualisation, il faut qu'il soit spécifique à ce projet qui va changer les profits des entreprises dans des états bien particuliers, ceux où le climat devient un sujet très important. Donc là, c'est une application directe en un sens de ça. Et donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est des compétences nouvelles et que du coup, ça fait partie du travail des actionnaires ou des gestionnaires d'actifs de surveiller que les entreprises font bien ce travail et ne se complaisent pas, disons, dans la facilité qui est de dire oh, tout ça, par exemple, ce que Christian disait, c'est-à-dire que la solution de facilité, ça serait de dire j'actualise tout au même taux. Donc ça, c'est un raccourci qui peut déformer fortement, par exemple, les impacts sur la valeur d'une entreprise. Mais en tout cas, il y a bien des cas gagnant-gagnant, des cas où engager dès aujourd'hui des travaux de recherche ou d'aménagement des technologies pour être plus vert, c'est une bonne idée pour la valeur actionnariale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de conflit du tout. Et quand je disais que c'est le cas simple, c'est simplement parce qu'il ne crée pas de conflit. Il y a un alignement. Le seul conflit, ça peut être le conflit entre des managers qui sont incompétents sur ces sujets et qui ne veulent pas perdre leur poste ou leur pouvoir de décision. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des compétences qui sont présentes chez des personnes qui n'ont pas mis à jour leurs compétences. Voilà, donc je dirais sans doute que le problème de la compétence, qui est de l'aléa moral classique, est sans doute le plus important sur ce qui peut conduire des dirigeants à ne pas prendre spontanément, ne pas investir spontanément sur des projets qui sont à la fois propres et qui en plus augmentent la valeur de l'entreprise. Je sais que Jean Tirole dit souvent, il faut quand même être très pervers pour ne pas investir dans des projets qui sont à la fois bons pour la planète et bons pour la valeur de l'entreprise, le bonus du dirigeant. Donc la seule explication, ça doit être quelque chose de l'ordre de la compétence ou de la mauvaise compréhension, disons, de ces sujets. Et donc c'est pour ça qu'un des gros travaux en cours de la finance responsable, c'est de mobiliser en un sens les entreprises pour s'assurer qu'elles développent les compétences. Les grosses entreprises le font, je pense que les entreprises de taille moyenne ont plus de mal parce que c'est pas la priorité et que c'est pas encore complètement mainstream. Après, est-ce que les actionnaires vont fortement bénéficier d'investir dans des entreprises qui sont plus vertes que la moyenne? Là-dessus, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'il y a une thèse qui est ce qu'on peut appeler la thèse d'un repricing lent, d'une revalorisation lente. C'est-à-dire que dans un monde parfait de marché efficient, dès qu'on a compris que le climat était un problème, les prix auraient dû s'ajuster pour refléter l'état des connaissances et le fait que les entreprises ou les activités très polluantes allaient être progressivement décotées. Alors peut-être que les marchés, c'est le cas dans la réalité, mettent du temps à s'adapter. C'est-à-dire que dans la pratique, on ne voit pas ces espèces d'ajustements complets, instantanés, qui sont prédits par les marchés efficients. Les entreprises peuvent mettre du temps à comprendre. Dans certains cas, ça prend quelques minutes ou quelques jours, et ça intéresse beaucoup les hedge funds, parce que ça laisse de l'espace pour faire de l'arbitrage. Et soit dit en passant, une partie de l'utilisation des données dites ESG, ça relève de ça. C'est-à-dire que la surveillance satellite du niveau de pollution des usines, en réalité, c'est un très bon indicateur du niveau d'activité des usines. Et donc, beaucoup de fonds qui disent qu'ils font de la finance ESG, en réalité, ce qu'ils font, c'est utiliser les données ESG pour, de manière intelligente, anticiper si une entreprise va bien ou mal. Mais ce dont l'industrie financière parle souvent, c'est d'une sous-réaction de vraiment long terme qui dirait que, de manière un peu systématique, investir dans les entreprises plus vertes va rapporter à long terme. Là, on verra ce que l'histoire. Enfin, c'est toujours difficile, en plus de jauger ex post si c'était le cas ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas une évidence, parce que quand même, ce sujet est très présent dans la presse financière et dans les préoccupations des dirigeants. Donc je dirais ne pas trop miser là-dessus comme une motivation de la finance responsable. Je vais passer un petit peu vite là-dessus, mais j'ai un papier qui regarde ce qui se passe quand il y a de mauvaises nouvelles concernant le comportement environnemental d'une entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, de manière instantanée, la valeur actionnariale des entreprises tombe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la formule, mais grosso modo, pour comprendre pourquoi la valeur d'une entreprise tombe au moment où une information nouvelle est révélée au marché, il y a deux explications possibles. La première, c'est que les gens révisent leurs anticipations de profits futurs, à court terme et à long terme. L'autre, c'est que le taux d'actualisation change, par exemple parce que l'entreprise maintenant est considérée comme plus risquée, auquel cas le marché va dire « Ouh, je veux une prime de risque pour détenir cet actif » et donc ça va justifier une chute du prix. Et donc, ce qu'on voit dans nos données, on regarde comment les analystes changent leurs anticipations de profits futurs sur les entreprises et on voit que ça s'ajuste assez vite, c'est pas instantané, ça prend quand même quelques semaines, mais surtout que ça porte sur le long terme, c'est-à-dire que systématiquement, les analystes considèrent que des mauvaises nouvelles, des mauvais comportements concernant l'environnement remettent en cause la profitabilité de long terme des entreprises. Et donc on les voit baisser en particulier les profits à horizon 3, 4, 5 ans de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant, en fait. Ça veut dire que bon, les marchés, en tout cas, ont bien intégré ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de complètement dans l'imagination. C'est concrètement pris en compte dans les prévisions futures. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans nos données, en tout cas, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de changement sur les primes de risque, en fait. Ce qui change, c'est vraiment la perception des profits futurs de l'entreprise. Voilà. Donc, avant de quitter le cas gagnant-gagnant, disons, où finalement tout le monde est aligné, il faut juste se mettre en ordre de bataille pour être compétent et faire ce qu'il faut faire pour à la fois maximiser la valeur de l'entreprise et celle des actionnaires, enfin, et le bien-être commun. Évidemment, ça ne résout pas tout parce qu'il reste des externalités. Donc, il reste quand même des situations où l'entreprise, quand elle pollue, elle exerce des externalités. Peut-être que la réglementation ne se mettra jamais à un niveau où ces externalités sont complètement payées par l'entreprise. Alors là, il y a un cas intéressant qui est celui des gros actionnaires, en particulier les actionnaires diversifiés. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux vont intégrer des externalités que l'entreprise elle-même ne va pas intégrer spontanément. Donc, si vous êtes BlackRock ou Amundi en France, donc vous êtes un gros actionnaire qui gère l'épargne de, grosso modo, la classe moyenne de votre pays, non seulement vous pouvez intégrer des préoccupations sur le bien-être des personnes qui vous ont confié leur argent, donc ça a du sens de dire je vais prendre en compte aussi l'impact de ce que font les entreprises sur le bien-être et pas seulement me préoccuper de la valeur actionnarial de mon portefeuille, mais aussi, de manière encore plus directe, vous allez intégrer l'effet d'une entreprise A sur toutes les autres entreprises. Donc, le problème d'une entreprise individuelle, c'est que vraiment, si elle maximise sa valeur actionnariale, elle est spontanément très égoïste. Elle ne va pas prendre en compte l'impact qu'elle a sur les autres entreprises. Mais si vous détenez un portefeuille de toutes les entreprises du monde, là, vous commencez à vous sentir beaucoup plus concerné en tant qu'actionnaire par l'idée de mettre la bride à des excès de pollution, parce que si une entreprise gagne un peu plus d'argent en détruisant l'environnement qui permet aux autres entreprises de rester profitables, c'est pas bon pour votre portefeuille. Et donc vous allez commencer à intégrer des externalités. Donc ça, c'est intéressant et c'est une bonne grille pour comprendre aussi pourquoi des actionnaires qui représentent des très grosses coalitions de petits investisseurs ont intérêt en fait à pousser les entreprises à être plus vertueuses que ce qu'elles veulent faire spontanément. C'est pas une anomalie, c'est pas forcément du marketing hypocrite. Ça peut refléter en fait vraiment le fait qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts individuels que les entreprises qui elles sont plus égoïstes qu'un investisseur diversifié qui s'intéresse au profit de son portefeuille. Alors pour finir, je vais parler du cas difficile. C'est le cas où finalement, il y a bien un conflit entre la valeur de l'entreprise et les préférences morales qu'un actionnaire peut vouloir exprimer. Et donc ça, c'est intéressant. D'abord, c'est intéressant de comprendre pourquoi, au fond, si les actionnaires ont des préférences morales, la solution de Milton Friedman ne fonctionne pas. C'est une solution qui fonctionne uniquement si, par exemple, les décisions morales, c'est de donner à des œuvres philanthropiques, donc les entreprises qui donnent, à l'Opéra de Paris, ou à des... Donc là, Friedman disait, non, c'est pas, je ne sais pas quelle entreprise, de décider si on donne à la Philharmonie ou à l'Opéra de Paris, c'est à l'actionnaire, quand il reçoit son dividende, de décider quelle proportion il investit sur des œuvres de bienfaisance. Ça, ce cas-là, dans le cas de l'environnement, il ne fonctionne pas, parce que ça serait extrêmement inefficace de dire, écoutez, on laisse les entreprises polluer comme elles l'entendent, et puis après, quand vous recevez votre dividende, vous pouvez planter des arbres. C'est mieux que rien, mais c'est certainement pas efficace. Il vaut mieux essayer de faire les efforts qu'on peut pour produire en polluant moins, sans pour autant que ça ait un coût trop important en termes d'efficacité. Donc ça, c'est un cas intéressant, parce qu'il nous oblige à sortir de Milton Friedman, c'est-à-dire que ce théorème de séparation hérité d'Adam Smith, il ne fonctionne plus dans le cas de la pollution en particulier, si vous voulez. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de transferts un peu philanthropiques, du type un peu redistributif, au fond. On dit il faut soutenir le monde de l'art. Milton Friedman disait c'est aux actionnaires de décider, ce n'est pas au patron de l'entreprise. Il n'y a pas une légitimité particulière. Soit, mais dans le cas de l'environnement, ça ne fonctionne pas, cette séparation. Il va y avoir beaucoup de pertes en ligne si on s'en remet aux actionnaires pour réinvestir les dividendes gagnés au prix de la pollution, disons, pour dépolluer. Il vaut mieux nettoyer avant, en quelque sorte, que nettoyer après, c'est plus efficace économiquement. Donc du coup, ça ouvre la possibilité de dire les épargnants eux-mêmes ont potentiellement, comme tous les humains, hein, du reste, hein, des préférences, des préoccupations morales, Et si on est dans un état du monde où les réglementations ne traitent pas optimalement des externalités, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde que Christian, pour lequel, dont Christian est l'avocat, disons, où on met la taxe carbone à un niveau où elle reflète vraiment les externalités, dans ce cas-là, les actionnaires peuvent dire, en attendant que ce monde advienne, disons, on peut se positionner pour essayer non seulement de faciliter qu'il advienne, mais aussi éventuellement d'aller plus loin et de forcer les entreprises à renoncer un peu à la profitabilité dans des cas où on estime que ça a vraiment un effet positif sur le monde. Et alors là, je vais parler un petit peu des recherches que je fais là-dessus très brièvement, donc il reste 6 minutes, c'est ça le... mettons 8 minutes. Alors, un premier aspect qui est assez fascinant, c'est quand on remonte un peu aux considérations aux définitions de l'éthique, vous savez, il y a deux grandes familles, c'est vraiment très, très, un peu caricatural, mais il y a l'éthique conséquentialiste et l'éthique plutôt de type déontologique. Donc les conséquentialistes, et la plupart des économistes sont dans ce camp-là, en fait, ils disent, écoutez, une action est bonne si il y a des raisons de penser que le monde va en devenir meilleur. Le monde, avec cette action, est meilleur, pour le bien collectif, que le monde si je ne prends pas cette action, si je n'ai pas un comportement conforme à cette action. Et la déontologie, ça c'est l'approche un peu d'Emmanuel Kant, c'est une approche de l'éthique ou de la morale qui consiste à dire il faut se conformer à des principes. Après, il faut s'interroger sur quels sont les bons principes, mais ce qui est important, c'est d'être cohérent avec un certain nombre de principes. Je vais vous montrer comment il s'avère que c'est très central pour penser ce que c'est qu'un portefeuille responsable, ce que c'est, disons, pour un investisseur qui veut exprimer des préférences morales. C'est très important de savoir si vous vous sentez plutôt du côté déontologique ou si vraiment c'est le conséquentialisme qui vous importe, c'est-à-dire que si ça n'a aucun impact sur le monde, vous considérez que ça n'a pas d'intérêt pour vous, même moralement. Donc pour ça, il y a un vieux problème, enfin pas si vieux que ça, un problème qui est utilisé en philosophie analytique pour essayer d'aider les gens à réfléchir sur est-ce qu'ils sont plutôt conséquentialistes ou déontologues, et puis pour leur montrer que tout le monde en réalité est un peu les deux et il y a une tension entre les deux, c'est le problème du trolley que vous connaissez peut-être. Donc on demande aux gens de s'interroger sur comment ils réagiraient dans la situation suivante. Donc il y a un tramway qui dévale une voie à toute vitesse. Imaginez, je ne sais pas, San Francisco, là où il y a des pentes très aiguës. Donc le tramway dévale la pente, hors de contrôle, en direction de 5 personnes qui sont attachées au rail, disons, pour simplifier. Heureusement, il y a un aiguillage à côté de vous que vous pouvez actionner pour détourner le train. Mais sur cette autre voie, il y a une personne. Et donc vous avez deux possibilités. Si vous ne tirez pas sur l'interrupteur, 5 personnes vont perdre la vie. Si vous tirez sur l'interrupteur, une personne va perdre la vie. Okay, donc ça, c'est un grand classique de philo-analytique qui consiste à essayer d'aider les gens à s'interroger sur ce qu'ils feraient. Voilà. S'ils ne font rien, 5 personnes meurent. S'ils agissent sur l'aiguillage, une personne meurt et donc 4 vies sont épargnées. Et donc là, sous le voile d'ignorance de Christian, c'est quand même mieux qu'une personne meure plutôt que 5. Et donc il n'y a pas vraiment d'hésitation. En pratique, les gens hésitent beaucoup parce qu'ils ont en tête un principe déontologique qui est un principe de ne pas faire de mal. Et donc, qui suis-je pour décider de la vie de cette personne qui, sans mon action, continuerait à vivre? Et donc, quand vous le faites sur des étudiants, il y a toujours à peu près, c'est pas moitié-moitié, mais il y a dans les business schools, il va y avoir 60% de conséquentialistes qui assument la décision utilitariste, en quelque sorte, de l'économiste. Et puis, il y en a toujours 30% qui disent non, on n'est pas, c'est pas à nous de choisir de la vie et de la mort des personnes. C'est se mettre dans une position qui n'est pas la nôtre, moralement. Bon, voilà. Donc ça, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a deux approches de l'investissement responsable qui, aujourd'hui, se combattent un peu, en quelque sorte. Il y a l'approche conséquentialiste qui consiste à dire, faut pas raconter d'histoire, si on veut avoir de l'impact, il faut investir dans les secteurs sales et les convaincre de devenir plus propres. Et puis aussi, dans beaucoup de cas, il va falloir accepter de mettre de l'argent sur des projets qui ont une valeur actualisée nette négative. C'est là que vous pouvez avoir de l'impact, parce que c'est ces projets-là qui ne se feraient pas sans vous. Quand vous raisonnez sur votre impact, il faut se demander si les projets que vous allez financer auraient lieu de toute façon ou pas. Donc, si c'est des projets qui sont profitables, ils vont trouver des investisseurs chez des ventures capitalistes classiques. Et donc, si vraiment vous voulez avoir un impact, une sorte d'additionnalité, disons, sur le monde, faire une différence, comme disent les anglo-saxons, il faut chercher des projets qui ne pourraient pas être financés si vous n'êtes pas là et que vous acceptez finalement une rémunération plus faible que l'actionnaire typique. Donc ça, c'est pensé comme un économiste, c'est l'approche utilitariste, c'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise, en fait, quand on écrit nos modèles, parce qu'ils sont faits pour ça, nos modèles, ils comparent le monde avec et sans un dispositif. Et puis, il y a l'approche déontologique qui, en réalité, domine actuellement dans l'investissement responsable, qui correspond plus, dans le trolley problème que je vous montrais, aux gens qui disent « Mais qui sommes-nous pour décider de la vie et de la mort des gens ? C'est pas notre... Ce qu'il faut, c'est être cohérent avec nous-mêmes. » Et donc, cette approche, elle conduit à essentiellement investir dans des entreprises qui sont déjà vertes ou des secteurs qui sont déjà verts en disant « Au moins, je ne contribue pas à la pollution, puisque ce n'est pas mon argent qui fait le travail de mort, disons, de la pollution. » C'est une approche un peu religieuse, au fond, et qui, en fait, remonte assez loin. Et donc, au XVIIe siècle, il y avait déjà, chez les communautés religieuses qui avaient des fonds à investir, il y avait déjà une doctrine, en fait, de cette idée qu'on est responsable de l'usage qui est fait de notre argent. Donc, si mon argent est utilisé à des fins malveillantes et nuisibles, la responsabilité me remonte en partie. Évidemment, les gens qui ont provoqué ces actions sont encore plus responsables, mais une partie de la responsabilité remonte à l'investisseur final. Voilà. Donc, on a des expériences, et donc là, je vais vraiment accélérer pour conclure. On fait des expériences avec, notamment d'ailleurs, un collègue de Christian qui est psychologue, et on met les gens face à des situations où ils peuvent décider d'acheter des entreprises qui sont mises aux enchères, qui sont des entreprises qui ont un côté green ou pas green, des entreprises qui donnent de l'argent à des entreprises philanthropiques. Et pour distinguer le cas déontologique et le cas conséquentialiste, en fait, on crée deux conditions différentes. Une condition où, quand vous achetez l'entreprise, de toute façon, la donation qu'elle va faire à une entreprise charitable va avoir lieu. Donc vous n'influez pas sur le cours des choses. Et puis, une situation où, en revanche, quand vous achetez cette entreprise, vous avez un impact sur le cours des choses, parce que si vous ne l'achetez pas, si vous ne décidez pas de l'acheter quand elle est mise aux enchères, et que finalement elle se retrouve achetée par personne, dans ce cas-là, la donation qui était sur le point de se faire ne va pas avoir lieu. Donc vous êtes beaucoup plus responsabilisé. Et ce qu'on trouve, c'est que les gens ne font pas de différence entre les deux. Ils comprennent très bien la différence, donc on teste leur bonne compréhension. Mais ce qu'on observe, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt... être cohérent avec eux-mêmes et investir dans des entreprises qui font le bien, point barre. Après, que le fait qu'ils investissent fait que ce bien advient alors qu'ils n'adviendraient pas autrement, ça, c'est pas quelque chose qu'ils considèrent être leur responsabilité. Donc voilà, donc pour conclure, actuellement, il y a bien deux sortes d'investissements responsables. La partie qui occupe le plus, l'espace, en particulier auprès des petits épargnants, c'est plutôt l'approche déontologique qui consiste à dire, écoutez, on va vous faire des portefeuilles décarbonés. Cette approche a quand même un impact indirect qui est que, d'abord, si tout le monde agissait comme ça, au bout du compte, ça rend bien, ça asphyxie un peu quand même les autres entreprises. Et même si tout le monde n'investisse pas dans des fonds verts qui excluent les entreprises polluantes, ça augmente sans doute quand même un peu le coût du capital des entreprises polluantes. Mais actuellement, ce n'est pas un gros effet avec les chiffres. Si on cherche à calibrer un peu, comme Christian le fait, quelle augmentation du coût du capital ça représente, ce n'est pas plausible parce qu'en fait, il y a actuellement des sources de capitaux à l'étranger, dans le private equity, qui ne s'intéressent pas à ces questions et qui sont tout à fait disposés à prendre le relais, disons, des petits épargnants pour investir dans des entreprises. Et donc, voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives du type, par exemple, en France, Euronext a lancé un CAC 40 vert, enfin soutenable, durable. C'est des initiatives intéressantes, mais est-ce qu'on peut penser qu'elles ont un impact direct ? Pas sûr, sauf peut-être qu'il y a une sorte de vertu d'exemplarité, parce que c'est vrai que ça conduit un peu les entreprises qui ne sont pas dedans à avoir un peu honte et à essayer de faire des efforts. Donc il y a peut-être une vertu incitative ou d'exemplarité. Mais en tout cas, un effet dont il faut vraiment se méfier, je sais que Christian est sensible à ça aussi, c'est l'effet pervers des potentiels des investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investissement vert pousse nos grandes entreprises, du CAC 40 par exemple, à se délester de leurs actifs sales. Donc si vous êtes, mettons, un grand producteur dans le secteur énergétique et que vous avez des plages de sable bitumeux ou des mines de charbon, aujourd'hui, on vous demande grosso modo de vous en délester. Ce qui serait complètement responsable, ça serait de dire effectivement, on a ces choses dont il n'est pas souhaitable qu'elles soient exploitées, donc on les ferme. Et puis voilà, elles restent la propriété de l'entreprise, mais on s'engage à les fermer. Ce n'est pas ça que font les entreprises. Elles les vendent au plus offrant, en général, du coup, à des fonds de private equity qui sont assez opaques, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes informationnelles que les entreprises cotées. Et donc, il y a du coup, aujourd'hui, beaucoup d'actifs sales qui passent sous le radar, parce que les entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont poussées à devenir plus vertes, se délestent de toutes les activités gênantes, grosso modo. Donc ça, il faut être très, très vigilant là-dessus. C'est évidemment pas optimal. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. On aurait pu parler un peu plus de l'information financière, mais il y a un énorme écosystème. Je pense qu'il faut attendre que la poussière retombe un peu pour y voir plus clair. Mais c'est évidemment un des très gros enjeux en ce moment de réglementation, qui est de savoir quel type d'informations on demande aux entreprises. Et en particulier, il faut leur demander non seulement des informations sur la pollution dans leurs propres usines, mais aussi des informations sur leurs fournisseurs et éventuellement même sur leurs clients. Donc c'est ça qui est un petit peu un des gros enjeux en ce moment pour avoir un investissement responsable qui ne soit pas une passoire en quelque sorte, avec des entreprises qui seraient capables de faire remonter vers d'autres entreprises le soin de polluer. Donc je vais m'arrêter là, et puis je fais un peu de pub, puisque Christian l'a fait, pour mon dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Le prix de nos valeurs », qui s'interroge plutôt à l'aspect moral, en fait. Donc pas la première partie, qui est les cas gagnant-gagnant, disons, où mettons-nous tous, devenons compétents sur ces sujets, qui je pense est vraiment très important, et c'est pour ça que comme prof d'école de commerce, je cherche à développer des compétences, des nouveaux cours sur ces sujets. C'est très important que les managers de demain aient le minimum de compétences pour calculer la valeur d'un projet en prenant en compte ces questions. Et puis là, voilà, c'est un bouquin qui s'intéresse plutôt à les situations où il y a vraiment un conflit entre les valeurs et les profits, quoi, la pure efficacité économique.
Génial. Voilà. Merci beaucoup, Augustin. Quel est l'éditeur ?
C'est chez Flammarion.
Flammarion, ok. Flammarion. Super. Il s'est sorti.
C'est sorti, ouais. Okay. Je te le donnerai.
Tu aurais pu m'en apporter une copie. Je vais le lire ce soir. Merci beaucoup, Augustin. Franchement, merci. C'était...